L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Radio Mandeléo pour vous informer. Voici d'abord les titres de ces radiojournales. Au sommaire, la République démocratique du Congo et le Rwanda réaffirment leur engagement en faveur de la paix. Réunis au sein du comité mixte de surveillance, les deux pays se sont engagés à appliquer intégralement l'accord signé le 27 juin de l'année passée, notamment sur la question des frappes de drones. Kinshasa et Kigali promettent également de désamorcer les tensions autour des Minembwe et d'influencer les acteurs présents sur le terrain pour favoriser l'apaisement. Les détails dans cette édition. Également dans ce journal, après 3 mois de suspension, la pêche reprend officiellement les 5 juillet prochains sur le lac Kivu, dans la zone allant de Bukavu à Ishungu, en passant par Bushumba, Birava et l'île d'Idjui. L'annonce est contenue dans un communiqué du gouvernorat des provinces. Les autorités précisent toutefois que toute activité de pêche reste soumise à la détention d'un permis valide délivré par la DPMR Sud-Kivu. Plus de détails dans ce journal. La technique est assurée par Alain Zar. Au microphone pour la présentation, je suis Omer Moudekereza. Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Mandeléo, celle qui vous informe par un instant. C'est tout pour les titres. Place à présent au détail. Et nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition du journal, la RDC et le Rwanda se sont engagés à mettre pleinement en œuvre l'accord de paix entre les deux pays signé le 27 juin 2025, y compris en ce qui concerne les frappes de drones. Ils se sont également convenus à désamorcer immédiatement les tensions, notamment autour des Minembwe, et utiliser leur influence respective auprès de toutes les parties sur le terrain pour atteindre cet objectif. Détail, Alain Kabika.
Ces engagements ont été pris au terme de la 6e réunion du comité mixte de surveillance tenue le mercredi 24 juin à Londres. Cette rencontre a réuni les représentants de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda, ainsi que des États-Unis, de l'État du Qatar, de la République du Togo en tant que médiateur de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine. Faisant les points sur la situation depuis la dernière réunion, le comité d'opération conjoint a exprimé sa vive préoccupation face à l'escalade des combats aux conséquences des frappes des drones sur les civils et les processus de paix, ainsi qu'à l'aggravation de la situation humanitaire dans l'est de la RDC, notamment l'épidémie d'Ebola en cours. Le comité a convenu de l'urgence de prendre des mesures pour garantir l'efficacité du cessez-le-feu, lit-on dans une déclaration commune rendue publique et publiée par toutes les parties, dont les départements d'État américains. Dans la réunion, la RDC a fait les points sur ses travaux de neutralisation des FDLR et les Rwanda sur les processus de désengagement de ses forces des mesures défensives. Un autre engagement consiste à instaurer la confiance, notamment en s'abstenant de toute action ou rhétorique hostile, en particulier d'attaques politiques ou d'un langage susceptible de compromettre ou de compliquer la pleine mise en œuvre des accords de Washington, y compris dans les instances internationales. Il est aussi question d'apporter tout son soutien pour mener à bien les négociations en cours entre la RDC et la FCM23 dans le cadre du processus de Doha, poursuit la déclaration commune. Le parti, à savoir la RDC et les Rwanda, se sont également engagés à ajuster les mécanismes conjoints de vérification, appuyer les 10 mécanismes et créer des conditions politiques et sécuritaires propices au processus de vérification conjointe. La RDC et les Rwanda ont exprimé leur gratitude aux États-Unis, au Qatar, au Togo et à la Commission de l'Union africaine pour leur contribution constante au processus de paix et ont remercié le Royaume-Uni d'avoir accueilli cette réunion à Londres. La prochaine réunion du comité mixte de coordination et de médiation se tiendra dans les 15 prochains jours. Conclut cette déclaration commune.
Merci à vous Alain Kabika, et la Croix-Rouge de la RDC dénonce le meurtre de deux de ses volontaires dans le village de Kakumba, en territoire de Walungu, le 16 juin dernier. Dans un communiqué rendu public, cette structure humanitaire s'est dit bouleversée par ces drames qui a coûté la vie à deux de ses agents engagés sur le terrain. Selon ces communiqués, les victimes Biamungu Mugisho Kabuya et Mugisho Mparanya Romain étaient en mission humanitaire visant à améliorer l'accès à l'eau potable pour des populations vulnérables vulnérables lorsqu'ils ont été tués par des hommes armés non identifiés. Ces drames qui illustrent les dangers extrêmes auxquels sont confrontés les travailleurs humanitaires dans l'est du pays, poursuit la Croix-Rouge de la RDC. Elle exprime son inquiétude face à la situation sécuritaire dans les territoires de Walungu et dans l'ensemble de la province du Sud-Kivu, tout en rappelant que ces deux humanitaires ont été tués alors qu'ils portaient l'emblème de la Croix-Rouge, symbole universel de neutralité, d'impartialité et d'assistance humanitaire. Dans ce contexte de crise, l'organisation indique que l'accès aux populations vulnérables est déjà extrêmement difficile pour les acteurs humanitaires, d'où l'appel à leur protection. Elle rappelle également que selon les principes humanitaires, tout acte de violence contre les volontaires ne fait qu'aggraver la situation en compromettant la capacité des organisations à apporter une assistance aux personnes dans le besoin. Néanmoins, la Croix-Rouge réaffirme sa détermination à poursuivre ses actions humanitaires malgré les défis sécuritaires en vue de soulager les souffrances des populations et de protéger la dignité des plus vulnérables. Mesdames et messieurs, en cours de diffusion, c'est l'édition du journal sur Radio Maïndeleu émettant en direct de la ville de Bukavu.
Suivez Radio Maïndeleu en direct partout dans le monde sur www.radiomaïndeleu.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maïndeleu. Radio Maïndeleu, c'est vous.
Échangeons des chapitres à présent. La province du Sud-Kivu a enregistré des progrès encourageants dans les efforts de lutte contre la maladie à fièvre hémorragique Ebola. Ces progrès ont permis de décharger les deux derniers cas positifs la semaine dernière, mais la surveillance reste au rendez-vous. Ceci a été dit au cours d'un briefing de presse organisé à Bukavu jeudi 25 juin 2026 par la division provinciale de la santé au Sud-Kivu. Dans sa communication, le chargé des opérations de riposte contre Ebola au Sud-Kivu, Justin Bengehia, a indiqué que malgré la guérison des deux derniers malades, les habitants ne doivent pas baisser des gardes. Tous les membres de la communauté doivent rester mobilisés, surtout en cas de signes comme la fièvre élevée, les vomissements, les douleurs musculaires, les saignements ou en cas de décès inexpliqué, indique Justin Bengehia. En cas de signes suspects, les personnes concernées seront placées en incubation durant 21 jours pour un suivi. Si les tests sortent négatifs, la personne sera relaxée, mais en cas de test positif, la personne sera amenée au centre de traitement. On écoute à ce sujet le docteur Claude Baïziré, chargé de communication à la division provinciale de la santé du Sud-Kivu.
Pour le moment, nous n'avons pas de cas actifs. Il n'est pas dire qu'il n'y a plus de cas d'Ebola. Même au Nord-Kivu, la partie Goma, il n'y a pas aussi de cas actifs, c'est zéro cas actifs. Mais là aussi, ce n'est pas dire qu'il y a plus de cas. Et comme vous le savez actuellement, les gens viennent d'Ituri, les gens viennent du Nord-Kivu, les gens viennent de partout. Le monde est devenu petit et avec le déplacement de la population, les moyens de communication, les moyens de transport. Donc le risque est encore très élevé pour qu'on arrive à avoir un cas. Alors on a tenu compte d'inviter les journalistes, les hommes des médias, d'abord eux-mêmes qui soient sensibilisés et qui s'engagent à sensibiliser la communauté tout entière et continuer à multiplier les actions de prévention contre la maladie à virus Ebola.
Rappelons que c'est depuis vendredi 19 juin dernier que les derniers malades d'Ebola ont quitté le centre de traitement situé à Luiro dans les territoires de Kabare. Entre-temps, d'autres provinces de la RDC comme l'Ituri et le Nord-Kivu continuent de notifier des cas de virus Ebola, d'où l'appel à la vigilance dans les mouvements des populations. Et éducation à présent. L'examen d'État édition 2025-2026 s'est clôturé ce jeudi 25 juin 2026 sur l'ensemble du territoire national. À Bukavu, comme dans certains territoire. Les candidats à cette épreuve se disent satisfaits de la manière dont ils ont travaillé. Certains d'entre eux qui se sont confiés à Radio Maïndeleu jeudi 25 juin 2026 se disent déjà prêts à affronter l'université. Ils se sont confiés à notre consoeur Myriam Mufano et à notre correspondant dans la plaine de la Ruzizi Wendo Joué.
Je me sens hyper bien. Bien parce que je sais ce que j'ai fait. J'entends seulement ma réussite.
Que pensez-vous faire?
Je vais faire l'université parce que j'ai confiance en moi. Donc je vais faire l'agronomie à l'IEA. Je me sens tellement bien parce que je n'aime pas l'uniforme moi. Donc je me sens toujours heureuse et j'ai confiance que je vais réussir.
De 12 ans que je faisais à l'école, de l'école primaire, pour moi, je vais continuer les études, la santé publique.
Je l'espère que je vais réussir.
Oui, j'ai confiance en moi que je vais réussir parce que j'ai bien travaillé.
Les examens se sont passés très très bien et donc il y avait seulement un bon climat là-bas.
Tout ce qu'on avait étudié à l'école, c'est ce qu'on a vu là-bas. Nous espérons la réussite, que notre école puisse avoir 100%.
On abîmait les items en fait. Il n'y avait pas de service civique qui avait de déplacés qui venaient d'ouvrir à qui ont fait l'examen dans notre centre. Moi, je pourrais recommander de corriger nos items à la, mais pas à la machine. Parce qu'on a entendu des rumeurs, il y a des fois, si on a mal noirci, ça refuse de corriger.
Dans la commune rurale de Minembo, en territoire de Fizi, et dans d'autres villages de haut plateau d'Ouvira et Mwenga, des sources locales rapportent que malgré les tensions, les examens se sont clôturés dans de bonnes conditions. environnement. Et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, après 3 mois de suspension, les activités de pêche reprennent officiellement en date du 5 juillet prochain dans la zone de pêche des lacs Bukavu-Kabonde, Rundu, Rudafuloa, Muguza sur le lac Kivu, soit de Bukavu à Ichungu en passant par Bushumba et Birava jusqu'à Ijui. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué signé par les directeurs de cabinet du gouverneur de province sous la FM23, Maître Bouino Natigemwa Jean-Richard, et consulté par la rédaction des radios Maïndéléo, jeudi 25 juin 2026. Détail, Hélène Boudjiriri.
Il est néanmoins interdit de pêcher dans les zones de frayères et ou parcs aquatiques. De même, toute activité de pêche est conditionnée par la possession du permis de pêche délivré par la direction provinciale de mobilisation et d'encadrement des recettes des PMR Sud-Kivu. Poursuit ces communiqués, les filets moustiquaires, les filets biro, carrelés, les filets mayens des 5, 6 et 7 mm, les filets carrelés des 2, 3 et 4 mètres, les filets courora machine, les filets mayens tilapia des 2 et 3 cm, ainsi que les lampes torches attachées aux filets mayens restent prohibées, précise les documents. L'autorité prévient que les filets prohibés rencontrés seront saisis et détruits par l'équipe de surveillance. Entre-temps, les zones de pêche comprises entre Kabonde, Mabula, Ruhundu, Ngabanizo, Luganda seront fermées entre juillet, août et septembre 2026. Pour Isaac Safari, président de l'Union pour le développement des pêcheurs de tilapia, la réouverture de cette zone de pêche est un ouf de soulagement. Il appelle les pêcheurs à respecter toutes les consignes des autorités et ceux qui exerçaient dans la zone actuellement fermée de quitter pour rejoindre la zone rouverte à la pêche. Isaac Safari en parle.
Waku viongozi ambao wanaongoza walifunga maji miezi tatu toka Bukavu Kabonde.
Les autorités qui gèrent ont arrêté les activités de pêche pendant 3 mois sur tous ces axes de Bukavu Kabonde Ruhundu jusqu'à Muguza, et maintenant les plans de réouverture est là. C'est donc de Bukavu à Ijui en passant par Birava, Ichungu, etc. Partout là, la pêche sera ouverte. Alors, les pêcheurs doivent quitter la zone fermée pour venir dans la zone ouverte à la pêche. Conformément au communiqué de l'autorité, il est interdit d'utiliser les filets prohibés.
D'autres pêcheurs, joints par Radio Maïndéléo, continuent de demander aux autorités de garantir la sécurité de la pêche sur les lacs Kivu en limitant les tracasseries et les risques d'attaque des personnes mal intentionnées.
Merci à vous Hélène Boudjiriri. Dans un autre chapitre, les agriculteurs et les éleveurs en particulier et les paysans en général doivent prendre conscience que le feu de brousse a des conséquences néfastes sur l'environnement et les écosystèmes terrestres. Cette interpellation est de Basimike Changabuba Joseph, enseignant-chercheur au domaine des sciences et technologies de l'Université officielle de Bukavu au cours d'un entretien avec Radio Maïndéléo, jeudi 25 juin 2026, également détenteur d'un master en environnement. Basimike Changabuba Joseph demande aux agriculteurs, aux éleveurs de s'abstenir du feu de brousse, car ses conséquences sont innombrables et néfastes sur l'écosystème, bien que nombreux de ceux qui y font recours ne s'en rendent plus compte par manque d'informations. Il ajoute que cette pratique porte atteinte à l'environnement et les êtres vivants en sont les plus victimes, en ce sens que certains finissent par disparaître alors que l'humanité en a besoin. Basimike Changabuba Joseph explique.
C'est une pratique qui porte atteinte à l'environnement. Vous voyez, il y a beaucoup d'espèces qui dépendent de cet environnement immédiat-là, que ce soit les herbes, que ce soit les arbres, que ce soit les animaux. Alors, lorsqu'il y a pratique de feu de brousse, il y a des animaux qui disparaissent, qui vont fuir et aller chercher asile ailleurs. Les feux à répétition, vous allez voir que certaines espèces seront condamnées à disparaître parce que mises à feu à répétition vont disparaître. Et quand ça disparaît, chaque espèce a son rôle dans son écosystème. Vous allez constater que c'est l'environnement en général qui sera dégradé. Quand il s'agit aussi de la fertilité du sol, lorsqu'on brûle à tout moment, la partie de feuillage qui constitue l'humus pouvant entraîner à la production de la matière organique nécessaire à la fertilisation du sol, va également. Il y a appauvrissement du sol en matière organique et donc les cultivateurs eux aussi auront de la peine à produire davantage comme ce fut dans les temps.
Signalons que les feux de brousse, c'est une pratique qui consiste à allumer les feux dans un champ par les agriculteurs et les éleveurs à la recherche des espaces cultivables ou des herbes pour les bêtes domestiques. Et dans le reste de l'actualité, le chef du quartier Chimpunda en commune de Kadutu Luc Ilungambiji appelle les autorités, les organisations humanitaires et personnes de bonne volonté à venir en aide les sinistrés de l'incendie survenu dans son entité depuis août 2025. Dans un entretien avec Radio Maïndéléo, ces cadres des bases soulignent qu'à ces jours, plusieurs de ces sinistrés éprouvent d'énormes difficultés depuis que leurs maisons ont été réduites en cendres avec plusieurs pertes matérielles. Il ajoute que les enfants et les femmes enceintes sont le plus touchés par cette situation car ils développent déjà les maladies comme la malaria et la fièvre typhoïde suite aux intempéries auxquelles ils sont exposés. En cette période où la province fait face aux épidémies d'Ebola et de choléra, Luc Ilungambiji plaide pour une chaîne de solidarité en faveur de ces sinistrés, on l'écoute.
Mais jusqu'aujourd'hui, nous continuons à voir des familles qui restent encore sans abri. On ne pouvait pas passer sous silence un tel cas. C'est pourquoi je viens auprès de vous pour lancer encore un cri d'alarme par rapport à ces populations qui continuent à souffrir. Il y a plusieurs entreprises, organismes de la place, des organismes internationaux qui ont lancé ces cris à leurs oreilles qui ne cessent de compatir avec les sinistrés. C'est une situation qui devait être prise en charge par rapport à des conséquences qu'on est en train de voir maintenant aujourd'hui. Les enfants qui continuent à souffrir, les ménages sans abri, certains n'ont pas eu le temps d'intégrer les écoles, les autres parce qu'ils n'ont même pas quoi manger jusqu'aujourd'hui. D'autres institutions qui vont nous écouter, de venir en aide à ces familles qui sont restées sans abri jusqu'aujourd'hui. Les terrains encore vides, si vous y passez, on s'est dit avec la pluie qui va s'annoncer bientôt, nous on s'est dit notre population va vraiment souffrir.
Pour rappel, plus de 1000 maisons sont parties en fumée dans un incendie survenu dans les avenues Burende et Kakoba, situées respectivement au quartier Mosala et Chimpunda dans la commune de Kadutu en août 2025. À ce jour, plusieurs familles restent sans abri. Avant la deuxième partie de cette édition du journal, disons qu'amener les femmes à devenir des véritables actrices du changement à travers des actions de sensibilisation au son de ménage afin de contribuer à la protection de l'environnement par les reboisements et l'adoption des pratiques énergétiques durables. Tel est l'objectif d'un atelier de formation sur la cuisson propre et les mécanismes de prévention des incendies liés à l'électricité en milieu urbain organisé à Bukavu par l'ONG Justice pour tous à l'intention des cadres des bases, les femmes leaders, les médias, les représentants de la société civile et plusieurs acteurs communautaires. Détail, Myriam Mufano.
En croire Christian Kika, chargé des communications à l'organisation Justice pour tous, la cuisson traditionnelle présente plusieurs conséquences néfastes sur l'environnement et le bien-être des populations. Il cite notamment les impacts sur la santé, les incendies domestiques, la déforestation accélérée et les émissions de fumées nocives qui sont responsables de la pollution de l'air. Pour faire face à cette problématique, il recommande l'utilisation des foyers améliorés, la cuisson électrique, l'énergie solaire domestique, ainsi que d'autres solutions énergétiques propres et accessibles. L'objectif, indique Christian Keka, c'est de réduire la pression exercée sur les forêts, contribuer à l'autonomisation économique de la femme et protéger durablement l'environnement. À travers cette activité, l'ONG Justice pour tous souhaite voir les femmes s'approprier ces messages car elles peuvent influencer positivement les comportements au sein de leur communauté, comme l'indique son chargé de communication Christian Kika.
Pour le moment, nous entrons directement dans la saison sèche. Et pendant cette saison, nous devons être prudents. Nous devons être prudents, nous devons nous protéger contre les incendies, éviter d'utiliser de manière abusive l'électricité. Recourir toujours aux experts. Évitez d'installer soi-même les panneaux électriques. Lorsque vous achetez votre panneau en cas de coupure d'électricité, cherchez un technicien qui va le faire pour vous. Et aussi, vous avez besoin de quelque chose en matière d'électricité, cherchez les spécialistes. Évitez également de laisser les appareils en veille.
De leur côté, le participant s'est dit satisfait de la formation reçue. Elle s'engage à relayer les connaissances acquises dans leur famille et leur quartier afin que chacun soit mieux informé, plus responsable et davantage impliqué dans la protection de l'environnement. Cette activité s'inscrit dans la vision de renforcer les capacités locales en matière de protection de l'environnement, des préventions des risques domestiques et des promotions des solutions énergétiques durables, indique l'ONG Justice pour tous.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maïndéléo. du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
En sport, poursuite de la Coupe du Monde 2026 avec les derniers matchs de la phase des groupes. Dans le groupe F, les Pays-Bas, le Japon et la Suède ont validé leur qualification pour la phase à élimination directe. Les Néerlandais ont terminé en tête de la poule après leur victoire 3-1 face à la Tunisie. Dans l'autre rencontre, les Japon et la Suède se sont séparés sur un score de parité d'un but partout. Au classement final, les Pays-Bas occupent la première place avec 7 points, suivi du Japon avec 5 unités. La Suède, 3e avec 4 points, poursuit également l'aventure parmi les meilleurs 3e. La Tunisie est éliminée après 3 défaites. Ces 3 équipes rejoignent les autres nations déjà qualifiées pour la suite de la compétition, notamment le Mexique, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, le Brésil, le Maroc, la Côte d'Ivoire et l'Équateur. L'Afrique du Sud réalise d'ailleurs une performance historique en atteignant pour la première fois la phase à élimination directe d'une Coupe du Monde. La compétition se poursuit ce vendredi avec d'autres affiches décisives, notamment dans les groupes I où la France affronte la Norvège dans un choc très attendu, tandis que le Sénégal sera opposé à l'Irak. Ces rencontres permettront de compléter progressivement les tableaux des qualifiés.
La revue de presse, Radio Mindélé au Cap, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La flambée du prix des carburants dans la ville de Kamituga en territoire de Mwenga et la marche prévue par l'opposition le 8 juillet 2026 font partie des sujets rédigés par la presse jeudi 25 juin 2026. Hélène Boudjiri pour la revue de presse.
Commençons par la prunelle RDC qui rappelle que la ville de Kamituga au sud Kivu fait face à une nouvelle crise liée à la flambée du prix des carburants. Depuis plusieurs jours, les litres d'essence se vendent entre 15 000 et 17 000 francs congolais contre 9 500 à 10 000 francs congolais auparavant. Une hausse qui suscite des vives inquiétudes parmi les habitants et les opérateurs économiques, précise-t-elle. Selon plusieurs sources locales contactées par les confrères, cette augmentation serait liée à des difficultés d'approvisionnement observées ces dernières semaines. Des informations recueillies sur place évoquent des restrictions affectant l'acheminement du carburant vers Kamituga et les territoires des Mwenga. Toutefois, les causes exactes de ces perturbations n'ont pas été officiellement confirmées, écrit ces médias. Les répercussions se font déjà sentir dans plusieurs secteurs de la vie quotidienne. Les transports en commun sont particulièrement touchés. Les conducteurs des mototaxis et des véhicules de transport en commun ont revu leurs tarifs à la hausse afin de compenser l'augmentation du coût du carburant, compliquant davantage les déplacement des habitants. Cette flambée risque également d'avoir des conséquences sur les prix des produits de première nécessité. Les commerçants redoutent une hausse des coûts de transport des marchandises qui pourrait se répercuter sur les consommateurs et réduire davantage leur pouvoir d'achat. Face à cette situation, les habitants appellent les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes pour rétablir l'approvisionnement en carburant et éviter une paralysie progressive des activités socio-économiques à Kamituga et dans les environs, fait savoir la prunelle. De son côté, les souverains libres écrit « Bukavu, l'urgence d'encadrer les enfants s'impose afin d'éviter l'errance ». Ces médias notent que les grandes vacances approchent à grands pas ainsi. Ils estiment que des milliers d'enfants et d'adolescents vont se retrouver hors du cadre scolaire, livrés à eux-mêmes entre les avenues, la télévision et les téléphones. Pour éviter l'errance et les dérives, les souverains appellent les parents à songer dès à présent à l'encadrement de leurs enfants aussitôt en dehors de l'enclos scolaire. Cela va permettre d'éviter les enfants des bagarres, des quartiers, la consommation précoce des drogues et des grossesses précoces chez les jeunes filles. Il demande également aux parents de ne pas livrer les enfants aux travaux lourds pendant cette période des vacances scolaires. Dans un autre registre, le site d'information 7 sur 7.cd titre « Marché de l'opposition du 8 juillet, le gouvernement dénonce un projet visant à imputer des violences aux forces de l'ordre ». Ce portail développe la position officielle de l'exécutif national qui accuse les organisateurs de planifier des provocations lors de cette mobilisation citoyenne afin de discréditer l'autorité de l'État et de simuler une dérive autoritaire du pouvoir. À propos de cette prochaine manifestation, Forum des As fait savoir que des femmes de l'opposition population annonce une mobilisation le 8 juillet contre les difficultés socio-économiques. Les responsables de cette structure ont par ailleurs réaffirmé leur détermination à poursuivre leurs actions de sensibilisation et de plaidoyer à travers des initiatives qu'elles qualifient de pacifiques. Les membres de la dynamique des femmes, leaders de l'opposition pour le changement, ont estimé que plusieurs promesses formulées par les pouvoirs publics restent sans suite concrète, alors que les conditions de vie de la population continuent, selon elles, de se détériorer.
Un communiqué avant la fin de cette édition du journal, une occasion à ne pas rater. Plusieurs personnes se confrontent à un problème sérieux d'utilisation de la première langue internationale en traversant les frontières. Aujourd'hui, tous les pays amis de la RDC sont presque des pays anglophones. Que feras-tu comme les Américains seront partout dans le pays en y investissant? Quelle sera ta langue de communication? Les centres de formation BCLS donnent l'occasion à toute personne désireuse d'apprendre l'anglais, le français, accompagné d'une formation accélérée en informatique, de venir au complexe scolaire La Pro, Angouba, non loin du Feu Vert. Pendant cette période de vacances, le centre a réduit sensiblement les prix pour donner l'occasion à tout le monde d'y accéder. L'usage de l'anglais est un atout dans le monde des affaires aujourd'hui. Trois vacations disponibles, jour 8h à 12h, après-midi 13h à 15h et soir de 16h à 18h. Les inscriptions et la formation se tiennent dans les enceintes du complexe scolaire La Pro, chaque jour de 8h à 16h. À la fin de la formation, un certificat de participation sera livré aux candidats. Slogan: apprendre les langues, maîtriser la technologie, réussir l'avenir. La formation débute ce lundi 6 juillet 2026. Contact 09 94 47 46 78 089 88 81 0 38. Bonjour Sangwa Patient, directeur du centre Signe. Et c'est par cette note, mesdames, messieurs, que nous mettons fin à cette édition du journal sur Radio Maïndéléo. Sa mise en onde était celle d'Alain Zahar. Au microphone pour la présentation, c'était bien moi, Omar Moudekereza. Au revoir.